Chapitre 7. Au moment où l'araignée commence à tisser la soie, celle-ci est liquide, mais durcit rapidement pour former un fil parfois plus solide que l'acier. Tiré de Freaky Facts About Spiders, Christine Morlet, 2007. L'agent spécial Sal Martignetti attendait Kimberly devant le commissariat. À la seconde où elle sortit, il fit un appel de phare. Elle jeta un œil vers sa voiture banalisée, puis consulta ostensiblement sa montre. Elle était fatiguée, affamée et pas d'humeur. Elle finit néanmoins par traverser. Essentiellement parce qu'il avait suivi le conseil de Mac et brandissait de la crème à la vanille. Il avait mis le chauffage à fond, ce qui changeait agréablement du froid cinglant du petit matin, même à Atlanta. Elle prit les 6 pots de crème dessert, la bouteille d'eau qu'il lui tendait et une cuillère en plastique. Après une hésitation, elle lui offrit un dépôt à contre-cœur, mais il déclina. « Non, 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 tout est pour toi, c'est la moindre des choses. » Il était en train d'écouter la radio. Un animateur de talk-show conservateur fulminait contre la Ligue des droits de l'homme qui conduisait le monde à sa perte. Mais lorsque Kimberly s'installa, Sal le coupa net. « Longtemps que tu attends ?» demanda-t-elle en attaquant la première crème dessert. Sal n'était pour elle qu'une vague connaissance. Elle l'avait croisé à un barbecue, un quelconque gala de la police. Le JBI comme le FBI étaient des grosses organisations, de sorte que la plupart des agents étaient des noms qu'elle avait entendus plutôt que des visages connus, et Sal ne faisait pas exception. Petit, brun et musclé, il possédait le physique nerveux d'un homme qui avait grandi à la dure, sans doute pas loin des rues où il patrouillait désormais. Malgré le costume gris clair qu'il portait ce matin, il arrivait à ressembler davantage à un truand en pleine ascension qu'à un enquêteur d'État. « Je suis là depuis 20 minutes, » répondit-il en levant un sac de fast-food graisseux. « J'ai pris mon petit déjeuner. » Ça aurait été plus confortable dans le commissariat. « Je ne sais pas encore trop bien ce que je pense d'eux, » expliqua Sal avec un signe de tête vers le commissariat de Sandy Springs, ce qui, venant d'un agent spécial du JBI, était une manière comme une autre de rompre la glace. Kimberly termina le premier pot, en ouvrit un deuxième. Il y avait vraiment un truc qui clochait. Un agent du JBI l'appelait en pleine nuit et insistait pour qu'elle parle à une prostituée qui s'était fait pincer. Puis le même agent spécial l'attendait à la sortie. Kimberly retourna la question dans sa tête, mais resta sans réponse. Sal, finit-elle par dire. Autant j'adore la crème dessert, autant je ne donne pas les clés du royaume pour un encas. Alors si tu veux quelque chose, crache le morceau, j'ai un autre rendez-vous dans 30 minutes. Sal éclata de rire. Cela mit une étincelle dans ses yeux, adoucit la dureté de sa mâchoire. Il aurait dû rire plus souvent. Elle aussi, d'ailleurs. Bon, voilà ce qui se passe. Tu sais que je fais partie du réseau Vicmo. Kimberly fit signe que oui. Tout l'intérêt de Vicmo, c'est de mettre en relation les forces de l'ordre de tout l'État pour faire des rapprochements entre des crimes qui se ressemblent. Je bosse au FBI, Sal. Je connais mes acronymes, on passe un test tous les vendredis. C'est vrai ? Non. Il rit à nouveau, ses yeux sombres s'égaillèrent. Ok, bon. J'ai une théorie à propos des crimes qui se ressemblent. Je crois que quelqu'un supprime des prostituées. Kimberly fronça les sourcils, piocha dans son pot. Comment ça, tu as une théorie ? Les filles sont portées disparues ou non ? Les statistiques de disparition grimpent ou non ? Pas avec ces filles. Fugueuses, prostituées, droguées. Qui s'intéresse assez à elles pour faire un signalement ? Elles disparaissent et personne n'en sait rien. Mais elles ne font que passer aussi, riposta Kimberly. Si elles disparaissent, c'est peut-être parce qu'elles ont sauté dans un bus. C'est clair. Elles ne font pas partie des populations les plus susceptibles de répondre aux questionnaires du recensement. Cela dit, mets un paquet de flics dans une pièce et ils auront tous une histoire à te raconter sur une fille, une droguée ou quoi, qui s'est fait pincer ces derniers temps et qui leur a demandé, première question, « Est-ce que vous avez vu une telle ?» Elle cherche une amie perdue, une coloc, une complice. Comme évidemment personne ne sait de quoi elle parle, l'histoire s'arrête là. Tu as raison, ces filles ne font jamais de signalement de disparition. Mais l'une après l'autre, elle pose exactement la même question. Que sont toutes ces putes devenues? Très poétique, Sal. Je participe à une scène ouverte tous les jeudis soirs au Wildcat. Kimberly le regarda avec des yeux ronds. Oh, tu plaisantais, dit Sal. Je vais en prendre un autre, dit Kimberly en ouvrant un troisième pot. Non pas parce qu'elle avait faim, mais parce qu'elle avait besoin de s'occuper. Je ne comprends pas, reprit-elle finalement. Ok, il y a des rumeurs de disparition. Mais justement, que sont devenues les putes qui ont disparu? Si quelqu'un les supprime, comme tu dis, où sont les preuves? Est-ce qu'elle a disparu à, aperçue pour la dernière fois à tel endroit, ne devrait pas correspondre le cadavre non identifié B, découvert entre-temps? J'ai essayé cette piste. Aucun cadavre féminin non identifié découvert ces derniers temps. Elle lui lança un regard appuyé. Ça tue la théorie dans l'œuf. Si un prédateur s'attaquait aux prostituées, il se débarrasserait des corps quelque part. Dans des bennes à ordures, des ruelles, au bord de l'autoroute, on aurait découvert quelque chose. Sal haussa les épaules. Combien des victimes de Ted Bundy restent encore introuvables? Il les envoyait de préférence bouler dans des ravins. Il faut regarder les choses en face. Il y a un paquet de ravins dans cet état. Et d'élevage de volailles, et de marécages, et des kilomètres de rien du tout. Pour ce qui est de planquer un cadavre, la Georgie est l'endroit rêvé. Ou alors, concéda-t-il, peut-être que le type va dans un autre état. C'est toujours une possibilité, mais tu es mieux placé que moi pour le savoir. Kimberly sentait qu'il était sceptique. Après tout, si un individu enlevait des prostituées en Georgie pour les tuer en Louisiane, l'enquête serait indéniablement fédérale. Or, Sal pensait que cette affaire n'était pas pour le FBI. Il pensait que c'était son affaire. Donc, ne serait-ce que pour cette seule raison, l'individu opérait forcément à l'intérieur des frontières de la Georgie. Kimberly l'observa. Elle se livrait à un petit calcul mental et le résultat ne parlait pas en faveur de Sal. Trevor dit qu'ils ont ramassé Delila peu après 1 heure. Mais je n'ai été appelée qu'à 3 heures passées. Quelque chose que tu voudrais ajouter à cette chronologie, agent spécial? Sal ne se donna pas la peine de prendre l'air repentant. Il lui lança simplement un grand sourire. On m'avait dit que tu étais maligne. Et violente aussi. Ne te laisse pas aveugler par le ventre. Son sourire s'élargit encore. Ouais, évidemment. Peut-être bien que j'ai tenté le coup avec elle. Si ça peut te consoler, Miss Gypsy n'a pas mordu. Depuis que la police l'a ramassée, elle a catégoriquement refusé de parler à qui que ce soit à part toi. Ils t'ont plu, ces tatouages? Comment tu la connais? Demanda-t-il avec curiosité. Trafic de stupéfiants? Cristal? Elle paraît plutôt bas de gamme pour jouer les mouchards auprès d'une fédérale. On ne sait jamais d'où pourrait venir le bon tuyau. Pourquoi tous ces efforts, Sal? Reprit-elle d'un air soupçonneux. Débaucher une informatrice? Réveiller une fédérale au milieu de la nuit? À t'entendre, tu n'as même pas d'enquête ouverte et pourtant tu fais des pieds et des mains pour parler avec une pute couverte de tatouages. Sal ne lui répondit pas. Il regardait maintenant par la fenêtre. Il ne souriait plus et son air sinistre avait probablement filé la frousse à plus d'un informateur. J'ai reçu un colis, dit-il sèchement. Il y a 14 mois. Pas de nom dessus, pas de message à l'intérieur. Juste 3 permis de conduire de l'État de Georgie dans une simple enveloppe blanche sous l'essuie-glace de ma voiture, ni plus ni moins. Des permis de conduire? Des contrefaçons, tu veux dire? Ou des vrais? Des vrais. J'ai les pièces d'identité valides de Bonita Breen, Mary Black et Etta May Reynolds, blanche, la vingtaine, domiciliées dans Atlanta et sa banlieue. J'ai creusé un peu et devine quoi? Ce sont toutes des filles de joie, chicana-t-il, que personne n'a vues depuis des mois. Bon, d'après la rumeur, Mary est partie au Texas et Etta May s'est tirée avec un barman. J'ai lancé des avis de recherche pour les deux, sans moins de résultats. Alors, vu de ma fenêtre, ça fait d'elle de disparue, mais il se peut que mon boss ait d'autres idées sur la question. Kimberly ne put retenir un sourire. Elle savait quelque chose des désaccords qui peuvent survenir avec un supérieur. Ça arrive. Et puis, continua Sal, il y a 3 mois, rebelote. J'arrive à ma voiture et je découvre une nouvelle enveloppe avec 3 nouveaux permis. Beth Honeycutt, Nicole Evans et Cindy Rodriguez. Sauf que cette fois, j'ai de la chance. Beth Honeycutt a bien été portée disparue. par sa colocataire, Nicole Evans. Attends. La même Nicole Evans dont le permis de conduire se trouve dans l'enveloppe? Celle-là même. D'après le fichier des personnes disparues, la dernière fois qu'Honeycutt a été vue par sa colocataire, elles étaient en route pour un gros coup. Par ailleurs, Evans a affirmé qu'Honeycutt ne se serait jamais envolée sans prendre sa chaîne stéréo et ses CD dans leur appartement. Naturellement, quand j'ai essayé d'interroger Evans, j'ai découvert qu'elle non plus n'avait pas été vue depuis des mois. Et que d'ailleurs, la troisième colocataire, Cindy Rodriguez, avait elle aussi disparu. Trois nouvelles pièces d'identité, trois nouvelles disparues. Ça sent mauvais. C'est ton avis, c'est le mien. Mais pour la hiérarchie, six disparitions et tu n'arrives pas à ouvrir une enquête ? Demanda Kimberly, éberluée. Aucune preuve de l'existence d'un crime. Et en pratique, sur mes six noms, une seule a été portée disparue. Les autres sont simplement non localisées. À en croire les gratte-papiers, nous avons d'autres chats à fouetter. Tu sais, le problème du cristal qui s'aggrave, les fusillades entre bandes, les nouvelles exigences en matière de sécurité intérieure et tutti quanti. Kimberly soupira. Elle aurait aimé dire que c'était la première fois qu'elle entendait de telles conneries, mais ça aurait été mentir. Les gratte-papiers mènent le monde, même dans la police. Pour en revenir à l'enveloppe, dit-elle d'un air songeur. Quelqu'un s'est donné la peine d'entrer en contact, non pas une, mais deux fois avec la police. Ce n'est pas rien. L'enveloppe n'était pas cachetée et n'a fourni aucun indice matériel. Alors pour rigoler, je l'ai soumise à un copain psy que le service consulte parfois sur les vieilles affaires. Première réaction, bien sûr, beaucoup d'assassins apprécient les feux des projecteurs autant que les célébrités. Et ils en arrivent à prendre contact avec la police ou la presse locale. Le fait que l'enveloppe contenait des permis de conduire l'a intéressé parce que le BTK, le tueur en série du Kansas, aimait bien envoyer les permis de conduire de ses victimes à la presse. Alors il y a peut-être un élément classique d'imitation. Hé, regardez comme il est célèbre ce con, moi aussi je peux le faire. Le problème, c'est que les prédateurs qui font cette démarche ont généralement soif de reconnaissance. Question de vantardise, désir de manipulation, arrogance. Dans ce cas, il aurait dû y avoir un message. Un poème, un numéro à rappeler, quelque chose. Ça, pour reprendre l'expression de Jimmy, c'est comme d'envoyer une invitation à une fête sans donner la moindre indication sur l'adresse ou les règles du jeu. Son idée, le colis venait d'une tierce personne. Une tierce personne ? S'exclama Kimberly, incrédule. Qui, par exemple ? La femme de ménage du type ? Imagine un peu ça. Une femme nettoie de fond en comble le tiroir à chaussettes de son mari. Tombe sur un tas de pièces d'identité. Bon, il ne peut y avoir aucune bonne raison que son mari détienne les permis de conduire de trois jeunes femmes. En même temps, elle a la trouille de lui en parler. Alors elle les glisse dans une enveloppe qu'elle transmet discrètement au premier flic venu. Ça soulage sa conscience sans trop la mouiller. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur trois autres permis de conduire, railla Kimberly. Peut-être qu'il fallait aussi ranger le tiroir des sous-vêtements. Sceptique, Kimberly retourna la question dans sa tête. Ce scénario l'ennuyait à tant d'égards qu'elle ne voyait pas par quelle boule prendre. Six disparues, dont une seule pouvait être considérée comme telle. Pas de cadavre, ni d'autres preuves de l'existence d'un crime, mais deux paquets cadeaux dont on pouvait estimer qu'ils contenaient les trophées d'un tueur en série. Sauf que les enveloppes ne provenaient peut-être pas de l'individu lui-même, mais d'un proche trop apeuré pour entrer directement en contact avec la police, tout en étant assez futé pour remettre les permis de conduire, de manière à ne pas laisser le moindre indice matériel. Ce qui, présumait-elle, les ramenait à Delilah Rose, jeune prostituée arrêtée précisément cette nuit-là, et qui, tout en prétendant posséder des indices sur la disparition d'une collègue, refusait catégoriquement de parler à quiconque, sinon à Kimberly. Kimberly était troublée par Delilah. Elle n'aimait pas cette impression que la fille avait jeté son dévolu sur elle à cause d'un reportage vu autrefois à la télé. L'affaire de l'éco-killer ne datait pas d'hier. Et même si la presse avait présenté Kimberly comme une héroïne, elle n'avait pas retrouvé toutes les victimes à temps. Sal se tourna vers elle. Est-ce que Delilah a dit quelque chose d'intéressant ? Évoquer l'un ou l'autre de ces noms. Parce qu'en fonction de ce qu'elle a dit, on pourrait éventuellement monter une cellule d'enquête plurijuridictionnelle. Mon boss me donnerait peut-être enfin le feu vert si l'affaire venait des fédéraux. Désolée, nous n'avons ni l'un ni l'autre de cette chance. L'histoire que m'a servie Delilah Rose tient plus du texte à trous que de l'ordre de mission. Elle s'est montrée vague sur tous les points importants, y compris son propre nom. Bon sang, elle ne s'appelle pas vraiment Delilah ? Est-ce que Sandy Springs n'a pas au moins vérifié ses empreintes ? Oh, je suis sûre qu'ils m'appelleront pour me donner les résultats. D'ici 5 à 6 semaines, probablement. Bah, alors qu'est-ce qu'elle t'a dit ? T'es restée là-bas 1 heure. Je suis bien obligée de penser que vous ne vous êtes pas contentée de parler de la pluie et du beau temps. La main dans sa poche, sous-pesant la chevalière de Ginny Jones, Kimberly observa à nouveau l'agent spécial du JBI. Une enquête est en jeu, qui se joue avec des informateurs, des collègues des forces de l'ordre, et même des maris et des épouses. Sal avait beau parler de coopération, il avait manifestement le sentiment que cette affaire lui appartenait. Et si Delilah s'était confiée à lui plus tôt ce soir-là, Kimberly aurait toujours pu courir pour qu'il l'appelle. Delilah n'a prononcé aucun des noms qui figurent sur tes pièces d'identité, lui répondit franchement Kimberly. Elle n'a pas parlé de disparition en série, ni de quoi que ce soit de ce genre. Cela dit, elle entre dans la première catégorie dont tu as parlé, celle des professionnels qui sont à la recherche d'une copine. Virginia, dite Ginny Jones, disparue depuis environ 3 mois. Le nom te dit quelque chose ? Sal secoua la tête, sortit un bout de papier pour griffonner ce nom. Non, pas encore venu sur le tapis. Mais j'ai découvert 3 autres disparus, ne correspondant pas au permis de conduire que nous connaissons. Je n'arrive pas encore à savoir ce que ça signifie. Peut-être que ces filles ont simplement quitté la ville. Ou bien peut-être que la femme n'a pas encore fait le ménage dans le tiroir des t-shirts, tu vois. Ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus, Sal ? 1 an. Répondit-il distraitement. Avec une accélération depuis que j'ai reçu la 2e enveloppe. Ah, ton boss doit adorer. Eh, il faut bien avoir un passe-temps. Chercher des putes disparues. Chercher des disparues tout court, répondit-il vivement. Des sœurs, des filles, des mères. Tu sais ce que ça représente pour les familles, d'aller se coucher tous les soirs, sans savoir si leur proche est encore en vie ? Personne au monde ne mérite ça. Kimberly n'avait rien à ajouter, ce qui était tant mieux car elle avait vu l'heure. Elle ouvrit la portière, le poing encore fermé sur la chevalière. « Faut que j'y aille. » « Et où est-ce qu'elle a été aperçue pour la dernière fois, cette Virginia ?»« Dans une boîte à Sandy Springs. » « Le nom de la boîte ? Le signalement de Ginny ?»« Je t'ai dit que Delilah était vague. »« Tu vas l'appeler ?»« En théorie, c'est elle qui va m'appeler. »« Merci pour les crèmes, Sal. » A plus.
Chapitre 8. Les araignées sont exclusivement carnivores. Tiré de How to Know the Spiders, 3e édition, B.J. Caston, 1978. Henrietta n'allait pas bien. Elle était sur le dos depuis près de 3 jours, mais ne montrait aucun signe de progrès. Il prenait soin de ne pas la toucher, conscient que dans un moment pareil, tout examen, même conduit avec la plus grande délicatesse, pouvait mener à la catastrophe. Le grand âge d'Henrietta, près de 15 ans, aggravait naturellement la situation. Au premier signe avant-coureur de la mue, il avait pris les devants et il l'avait placée dans l'unité de soins intensifs où elle pouvait reposer, dans un environnement sombre et humide. À l'aide d'un petit pinceau d'artiste, il avait même tamponné ses pattes à la glycérine en prêtant une attention particulière aux articulations fémoro-patellaires et tibio-patellaires. La glycérine était censée aider à assouplir les sclérites de l'exosquelette et ainsi faciliter la libération d'Henrietta. Ce ne fut malheureusement pas suffisant. Debout devant elle, il envisageait maintenant un geste plus drastique. C'était peut-être le moment de sacrifier une patte. La mue est une période de grande vulnérabilité pour une mygale. Une fois par an, afin de pouvoir grandir, la mygale doit se défaire de son ancien exosquelette et, armée d'une toute nouvelle cuirasse, quitter son exuvie devenue trop petite. Pendant la majeure partie de l'année, la mygale se trouve en fait dans une phase intermédiaire entre 2 mues
et constitue lentement un nouvel exosquelette sous l'ancien. Au bout d'une douzaine de mois, en vue de la transition, l'araignée entre dans une phase de prémue, pendant laquelle elle sécrète du liquide exuvial entre le nouvel et l'ancien exosquelette. Ce suc digestif dissout une couche de l'ancien exosquelette, l'endocuticule, tandis que les soies apparues sur le nouveau commencent à repousser l'ancienne enveloppe. La zone où la mygale a perdu ses poils vire alors du beige au noir, ce qui annonce la mue. Peu de temps après, l'animal se couche sur le dos pour entamer celle-ci. Et de 20 minutes à 2 ou 3 jours plus tard, elle s'achève. À moins que l'araignée ne meure. Il voyait déjà des signes de détresse. Affaiblie par son âge avancé, Henrietta n'avait pas la force de libérer ses pattes. À mesure que les heures passaient, son nouvel exosquelette durcissait à l'intérieur de l'ancien, ce qui l'empêchait de se dégager de sa mue. Soit il agissait rapidement, soit elle allait mourir, piégée dans une prison de sa propre fabrication. Il pouvait l'amputer d'une patte ou deux, une brève torsion du fémur et le tour serait joué. L'idée n'était pas plaisante, mais une araignée peut perdre une patte sans trop de dommages. Ou alors il pouvait opérer. Il ne l'avait encore jamais fait et en avait simplement entendu parler sur divers forums de collectionneurs. On savait peu de choses des soins médicaux à apporter aux mygales. Il faut dire que les araignées mortes sont rarement autopsiées ou étudiées en vue de découvrir les causes du décès. Les vrais mordus enterrent ou font naturaliser leur animal. Mais la grande majorité des collectionneurs jettent le cadavre. Avec le temps, certains principes de base avaient été établis. Pour l'unité de soins intensifs, il s'était servi d'un pot de yaourt en plastique qu'il avait nettoyé à fond, à l'eau de Javel, et tapissé d'un sopalin stérilisé au four, puis trempé dans de l'eau bouillie et refroidie. Il avait laissé le récipient et le papier absorbant humide revenir à température ambiante avant d'y placer Henrietta et de refermer le tout avec le couvercle du pot de yaourt, désormais percé de 3 trous pour l'aération. Il avait horreur des récipients en plastique car il préférait surveiller ses animaux. Mais les mygales, comme la plupart des araignées, sont d'un naturel timide. Elles affectionnent l'obscurité, surtout lorsqu'elles sont en détresse. Il travaillait justement à l'étage, dans la grande salle de bain plongée dans l'ombre, les stores tirés, et il flottait une odeur de moisie, celle du terreau frais associée à un relent de pourriture. Une lampe de chevet diffusait une lumière tamisée, juste assez pour qu'il voie Henrietta sans traumatiser davantage son organisme. Elle ne bougeait plus. Elle n'essayait même pas de libérer ses pattes. Morte ? Il ne pensait pas. Pas encore. Mais cela venait. Et l'idée de la perdre était quasi intolérable. Elle avait été son tout premier animal. Et même s'il avait collectionné bien d'autres spécimens au fil des années, des espèces plus rares, aux couleurs plus exotiques, elle occuperait toujours une place à part. Après tout, un jour, il y avait bien longtemps, elle l'avait délivré. Aucun doute, il allait opérer. Il commença par réunir le matériel. Un bout de carton rigide tiendrait lieu de table d'opération. Une pince à épiler, une loupe, une pipette, des cotons-tiges. Il descendit au rez-de-chaussée pour faire bouillir la pince et humidifier un autre morceau de papier absorbant stérilisé. Le petit était sur le canapé. Les yeux résolument fixés sur la télé, il ne regarda pas l'homme lorsque celui-ci apparut. Pas bête, ce petit. Pendant que la pince refroidissait, l'homme disposa un autre papier absorbant humide sur le dos d'une boîte de Cheerios. Après quoi, il dilua 2 gouttes de liquide vaisselle Ivory dans une tasse d'eau bouillie et ramenait à température ambiante. Il remonta à l'étage, passant une nouvelle fois devant le salon. Cette fois-ci, au bruit de ses pas qui se rapprochaient, le garçon tressaillit. L'homme esquissa un sourire. À l'étage, il dut sortir Henrietta de l'unité de soins en prenant garde de ne pas la secouer, vu son état critique. Lorsqu'il l'eut fait glisser sur le lit d'hôpital morceau de carton, il l'approcha de la lampe de chevet et sortit la loupe. À y regarder de plus près, elle semblait irrémédiablement coincée. Son ancien exosquelette était à peine fendillé, pas la moindre patte ne perçait. C'était bien pire qu'il le pensait, et il lui fallut un instant pour prendre une inspiration saccadée et douloureuse. Puis il se maîtrisa. À l'aide du coton-tige, il tamponna la solution savonneuse sur l'exuvie, en veillant à ne pas laisser tomber le liquide qui pourrait entrer dans les poumons enfeuillés d'Henrietta et l'asphyxier. Pendant qu'il attendait 30 minutes que la solution ramollisse l'exosquelette, il décida de passer à l'étape suivante de son intervention et de retirer totalement le sternum de l'ancienne carapace. Les plaques étaient jointes par une fine membrane et très faciles à détacher avec la pince stérilisée. Cette étape se déroula mieux que prévu et il eut bientôt enlevé l'essentiel de la carapace et des plaques du sternum. Mais les pattes d'Henrietta restaient piégées. De longues et délicates nouvelles pattes, prisonnières des sclérites rigides de son ancienne enveloppe. Privée de l'usage de ses pattes pour se dégager de son exuvie, Henrietta était toujours clouée sur place. Il ressortit sa loupe et réfléchit à la marche à suivre. Du rez-de-chaussée monta le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait et se refermait. Des voix étouffées qui murmuraient, qui débattaient sans doute. Fallait-il ou non le déranger ? L'étage, c'était son sanctuaire, peuplé de ses hôtes insolites. Aucun de n'aimait y monter. En tout cas, pas plus que nécessaire. Pourtant, en fin de compte, des bruits de pas dans le vieil escalier grimpant sur le palier vers sa chambre. La porte s'ouvrit, inondant la pièce d'un jour inattendu. « Ferme ça !» rugit-il. La porte se referma. « Ne bouge pas, hein. Pas un mot. » L'intrus ne bougea pas, ne dit pas un mot. C'était mieux. Il allait devoir briser les lourdes sclérites des segments de chaque patte. S'il parvenait à enlever cette partie de l'exosquelette durcie morceau par morceau, sans endommager les pattes molles et à découvert en dessous, Henrietta aurait peut-être une chance. 4 segments à chaque patte. 8 pattes. Il s'installa pour ce travail méticuleux, toujours conscient de la présence derrière lui. La fille qui ne bougeait pas. Qui ne bougerait pas tant qu'il ne dirait rien. 5 minutes s'écoulèrent, puis 10, 30, 45, 1 heure. Il retirait peu à peu l'exosquelette rigide de chaque patte, lentement, soigneusement, segment par segment. Lorsqu'il leva enfin les yeux, il eut la surprise de s'apercevoir que sa chemise était collée à sa peau par la sueur et que sa respiration était laborieuse. Comme s'il avait randonné pendant des heures, au lieu d'être simplement penché au-dessus d'une table dans un halo de lumière tamisée. Il avait libéré toutes les pattes, même si plusieurs, bizarrement tordues, avaient de toute évidence souffert. Mais sous son regard, une patte se mit à bouger, puis une autre. Henrietta était toujours avec lui, elle se battait pour s'en sortir. « Ma toute belle !» roucoula-t-il à sa favorite. « Ça, c'est ma fille. »« Est-ce que elle va bien ?» demanda finalement une voix timide derrière lui. Il ne se retourna pas et répondit d'une voix sèche en reposant la pince. « Je ne sais pas. Après une mue aussi difficile, elle a probablement des problèmes à la bouche, au pharynx, à l'abdomen. Probable qu'elle sera morte d'ici demain matin. »« Oh ! » !»« Mais ça lui donne au moins une chance. » Puisant une satisfaction sans joie dans cette idée, il éteignit la lampe et laissa Henrietta mener son combat comme elle le préférait, seule dans le noir. Il se retourna enfin, et ses yeux, s'habituant rapidement à la pénombre, trouvèrent la fille sur le pas de la porte. Elle avait le menton relevé, dans une petite posture de défi qui mettait en valeur l'araignée tatouée dans son cou, mais ne les trompait ni l'un ni l'autre. « Tu l'as ?» demanda-t-il de but en blanc. Sans mot dire, elle tendit la carte de visite. Il s'en saisit, la retourna, lut le numéro de portable griffonné au dos. Pour la première fois de la matinée, il sourit. « Dis-moi exactement ce que tu as fait. » Et la fille, bien dressée à présent,
s'exécuta.